on va regarder trois petites choses. D'abord, verset 37, Jésus était attablé. La traduction littérale, c'est qu'il était couché. Et bien sûr, nous, on a en tête soit nos repas à nous, soit la scène de Léonard de Vinci où tout le monde est assis autour de la table, mais bien sûr, on n'était pas assis autour d'une table. Et donc, on était couché, et plutôt une espèce de reposoir bas, et on était en position à coucher. Et en fait, ça permet aussi de mieux comprendre, parce que si vous essayez de prier avec cet évangile, en essayant d'imaginer la scène, et que vous lisez le verset 38 avec la pécheresse qui se tient derrière Jésus, près de ses pieds, et qui est en train de les nettoyer de ses larmes, si on imagine que Jésus est assis, ça commence à devenir un peu bizarre, quoi. Mais à partir du moment où on comprend que non, en fait, Jésus est allongé, et donc souvent en étant allongé, c'est pas allongé de manière parallèle à la table, pas tout à fait perpendiculaire, mais en diagonale, on voit bien qu'en fait, elle peut être tout à fait au pied de Jésus, sans pour autant être au milieu du repas ou sous une chaise, quoi. Ensuite, justement, puisqu'on parle d'elle, verset 39, la pécheresse. Donc dans le judaïsme, on a tendance à mettre en avant l'aspect juridique du péché. Un pécheur a une dette envers Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des paroles ou parce qu'il y a eu des actes qu'il a commis qui l'ont rendu impur. Et donc là, ici, il s'avère qu'il est une autorité publique que la femme qui vient auprès de Jésus a une dette envers Dieu. Et donc c'est pour ça qu'elle est appelée la pécheresse. Et normalement, il convient, pour tout juif pieux, d'éviter de fréquenter des personnes impures, parce que ça permet de se garder soi-même de devenir impur. Et on comprend, avec cette idée du pécheur qui a une dette, hein, cette vision juridique du péché dans le judaïsme, pourquoi est-ce que Jésus interpelle Simon le pharisien sur la question, ou du moins avec la parabole, du créancier et de ses deux débiteurs. Il est question d'une dette. Donc ce n'est pas juste une image parmi une autre, c'est-à-dire que c'est vraiment la question de la dette, parce que le péché était considéré ainsi. Et puis, on va trouver après au verset 44 le gentil reproche que Jésus fait, ou la remarque que Jésus fait à Simon, tu ne m'as pas versé d'eau sur les pieds. Et on peut se demander, est-ce que c'est un manque alors? En fait, ça fait partie des règles de l'hospitalité. Après, peut-être que Simon considérait que Jésus avait les pieds propres et il n'avait pas besoin, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça fait partie des règles d'hospitalité, donc il aurait été de bon ton de le faire. Alors maintenant, deux petites propositions de lecture. D'abord, le fait que Jésus va chez Simon. Il n'est pas rare dans la Judée du temps de Jésus qu'un notable organise un peu à la manière romaine, en fait, un repas, un banquet public qui va avoir pour but de permettre à un invité, l'invité d'honneur, en l'occurrence Jésus, de développer sa thèse, que ce soit une thèse philosophique, littéraire, politique, théologique, spirituelle, et de répondre aux questions des autres personnes qui sont soit invitées ou alors qui se sont invitées, parce que c'est public. Un peu une conférence, quoi, si on veut, mais qui a lieu chez une personne qui reçoit. Et ici, Jésus, eh bien lui, on entend, en fait, il est invité pour deux raisons. Il est invité d'abord en qualité de rabbi, il vient comme maître pour donner son enseignement. On a entendu ce qui s'est passé juste avant, il a donné un enseignement, à la suite de ça, il est invité à manger, très bien. Mais pas seulement, parce qu'on entend ce qui se passe dans l'esprit du pharisien qui dit, si cet homme était un prophète. Donc ça veut dire que non seulement il l'a invité en tant que rabbi, mais il l'a aussi invité en tant que prophète. Et le fait que tout le monde puisse participer à ces banquets publics, ça explique que c'est aussi le fait que finalement, on ne s'étonne pas tant que ça de la présence de la femme pécheresse dans la maison. On s'étonne de l'absence de réaction de Jésus au fait qu'une pécheresse est en train de s'occuper de ses pieds. On ne s'étonne pas qu'elle soit là, parce qu'en fait, tout le monde peut rentrer. Maintenant, on va regarder justement un peu les parallèles qui existent avec les autres évangiles pour mieux voir ce qui est le propre à Luc. Chez Matthieu, Marc et Jean, il y a un repas tout à fait similaire qui se passe à Béthanie. Et au cours de ce repas, il y a une femme, alors ça c'est chez Matthieu et chez Marc, c'est Marie, la sœur de Lazare chez Jean. Et donc cette femme s'approche de Jésus avec un parfum précieux. Et elle le verse sur la tête chez Matthieu et chez Marc, sur les pieds chez Jean. Mais ce qui est important, c'est que dans ces trois récits, Matthieu, Marc et Jean, le passage se termine toujours par une querelle qui est relative au gaspillage du parfum. Vous connaissez bien ces passages-là. Jean précise même que c'est le moment où Jean dit que Judas est tapé dans la caisse. Donc on connaît tous ce passage-là. Eh bien, ici, ce n'est pas le cas. Chez Luc, le récit est différent. Il ne se situe pas juste avant la Passion. Il se situe au début. Bon, Jésus a commencé son ministère public depuis un petit moment, mais on pourrait dire, dans ce cas-là, au cœur du ministère public de Jésus. C'est une particularité lucanienne qui va définir, par conséquent, un trait saillant de l'enseignement de Jésus. On va relever deux particularités. D'abord, Luc est le seul à mentionner que la femme pleure et mouille les pieds du Seigneur avec ses larmes, l'endroit même où elle pose des baisers et où elle répand le parfum. Donc ça, c'est la première chose qui est propre à Luc. Et ensuite, on l'a dit, deuxième chose qui est propre à Luc, le récit ne se conclut pas par une controverse sur l'argent, mais sur le pardon des péchés de la femme. Il faut donc, je crois, conclure de ça que la femme vient d'accomplir publiquement, puisque c'est au cours d'un banquet public, elle vient d'accomplir publiquement un acte de conversion. Sa position d'abord, c'est celle de l'abandon. Elle est aux pieds du Seigneur. Ses larmes, qui vont être celles du repentir. L'onction, qui va être celle de la reconnaissance en Jésus du Messie, ou du Christ, parce qu'on avait dit justement déjà que Christ, ça veut dire celui qui est oint. Et ses baisers, eh bien, ça va désigner son désir désormais de suivre Jésus, de suivre une autre vie. Et donc on a là une attitude de conversion qui va conduire à l'expression de la miséricorde du Seigneur, qui non seulement pardonne les péchés, mais plus encore, le Seigneur lui donne la paix. Et il va encourager tout l'auditoire à savoir pardonner. Et donc, on a Jésus qui remet à la pécheresse la dette qu'elle a envers Dieu, alors que c'est une prérogative de Dieu seul. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre pleinement la parabole. Le créancier, c'est Dieu. Les deux débiteurs, c'est Simon et la pécheresse. Simon ne veut pas être parfaitement pur. Mais il a peut-être effectivement une dette qui est moins grande envers Dieu. Mais toujours est-il que c'est Dieu, le créancier, qui peut remettre la dette. Et donc, si il décide de remettre la dette à ses débiteurs, il le peut. Qu'importe. Et puis, il y a une dernière chose qui me semble essentielle. On peut passer un peu rapidement dessus, mais je pense que c'est essentiel. C'est la dernière phrase. Ta foi t'a sauvé, va en paix. Parce que dedans, il y a un double mouvement. Et il est bien noté dans l'ascension de la phrase, là. Ta foi t'a sauvé, point, va en paix, point d'exclamation. Premier mouvement, c'est un mouvement qui est un mouvement ascendant. Ta foi t'a sauvé, ça veut dire qu'on va du péché, qui était le sien, vers le salut qu'elle vient de recevoir à travers le pardon de ses péchés, à travers la remise de sa dette. Donc, d'abord, on a un mouvement ascendant. Du péché vers le salut. Et ensuite, on a un mouvement qui est descendant. Et ce mouvement descendant, c'est du salut vers la paix. Et donc, on voit bien ce double mouvement. Et ce n'est pas seulement la paix, c'est une vie en dehors de l'impureté. Et donc, il y a derrière ça aussi l'idée d'une vie à la suite du Christ. Et si on met ça en parallèle avec l'Eucharistie, en fait, c'est ce qu'on fait. Au début de la messe, on commence par se reconnaître pécheur, Ensuite, on célèbre le sacrement du salut, qui est véritablement l'Eucharistie, la présence du Christ en son corps et en son sang. Et puis, on part en paix, on part dans la paix du Christ, pour vivre chrétiennement. Et ça se retrouve juste à ce moment-là, alors qu'on est au cours d'un repas. Et si on voulait le dire autrement, pour reprendre les vertus théologales, on pourrait dire que la foi conduit à l'espérance, et l'espérance nourrit la charité.